Autour du thème des pastorales paroissiales centrées sur l'évangélisation. Vous savez que depuis des décennies, il y a beaucoup d'endroits où les prêtres, les diocèses réfléchissent quelle est la vie pour la paroisse, quel est le dynamisme paroissial que l'on souhaite pouvoir développer. Tous ceux qui ont tourné autour de Toulon savent toute la réflexion qui se fait sur les pôles paroissiaux missionnaires. Et on va essayer cet après-midi d'entendre trois curés de paroisse, même si Arnaud n'est plus curé, mais il a une expérience de Sanary qui reste quelque chose de très important. Et on va les écouter, puis on réagira les uns et les autres. Il y a le père Guy-Emmanuel Cario, qui est à ma droite, de la paroisse de l'Isle-Adam dans le Val d'Oise. Et il paraît, on me met, paroisse très classique au départ, qui a été profondément renouvelée et dynamisée dans son ensemble en quelques années par une pastorale résolument missionnaire. Mais il nous expliquera ça lui-même. À ma gauche, il y a le père David Gréa. J'ai eu la joie de partager le repas, d'être à côté de lui et de pouvoir l'écouter. Responsable de Lyon Centre. Mais où est-ce qu'est le centre de Lyon? Parce que, enfin, il nous expliquera aussi et partagera comment curé sur la presqu'île de Lyon, après être parti pour 3 ans d'études de théologie. Il m'a même dit qu'il terminait un doctorat sur Newman, le cardinal Newman qui sera béatifié au mois de septembre. Voilà. Je suppose que vous serez à Rome ce jour-là, non? Ah bah oui, c'est oui. Bon, on peut d'ailleurs prier pour ce voyage du Saint-Père en Angleterre qui suscite pas mal de réactions. Et il nous partagera son désir ardent d'une mission évangélisatrice de la paroisse, tout en étant conscient que la paroisse est trop souvent un lieu statique et décalé. Attente des contemporains, où il n'y a pas de place pour les jeunes ou pour des initiatives nouvelles. Et puis, il y aura autour de lui, mais vous les découvrirez, Benjamin et Thomas de Glorious. Alors, je vous avoue que je leur ai dit qu'en début d'après-midi, j'avais toujours une tendance au sommeil. Ils m'ont dit, vous en faites pas, on va mettre le feu et on vous empêchera de dormir. Alors, si vous avez tendance à dormir, n'ayez pas peur, ils vous réveilleront. Et ils vont vous partager comment, sur Lyon Centre, avec l'appui du cardinal Philippe Barbarin, eh bien, il travaille à fonder une paroisse de notre temps, une paroisse du 21e siècle, profondément missionnaire, avec l'implication directe des laïcs. Et puis le père Arnaud Adrien, que tout le monde doit maintenant connaître, lui, il est supérieur du séminaire de la Castille, dans le diocèse de Toulon, et il est responsable francophone des cellules d'évangélisation. Et puis surtout, il a la longue expérience d'avoir été curé de Sanary. Et je vous avoue que j'étais toujours émerveillé par le bouillonnement de cette paroisse. On avait l'impression que chaque année, il y avait des choses nouvelles, que ça rayonnait merveilleusement. Alors il pourra, avec le recul maintenant de quelques années, nous en parler. Il est également modérateur de la fraternité missionnaire Notre-Dame de la Mission. Et il va nous aider à porter un regard sur les enjeux et les difficultés d'une paroisse évangélisatrice, ainsi que sur la formation des futurs prêtres, comment préparer des prêtres en vue de cette pastorale paroissiale missionnaire. Alors, je ne sais pas qui commence, alors allez-y. Vous parlez de la table ou... Bon, voilà, allez-y.
Je vais inviter Thomas, Benjamin et puis Antoine aussi de la chaise qui vont venir. Mais on va d'abord regarder une petite vidéo si vous voulez. Nommant, il m'a dit que ce serait bien d'arriver à faire des choses du même ordre que ce qu'arrivent à faire les communautés nouvelles, mais qu'on le fasse vraiment dans une paroisse ordinaire, dans une paroisse diocésaine, paroisse, j'allais dire, classique. Sauf qu'évidemment, la difficulté de base, quand on arrive comme ça dans une paroisse, contrairement à une communauté, c'est qu'on ne s'est pas choisi. Donc on est là parce qu'on habite là. Et donc, il y a les forces vives globalement qui partent, parce qu'elles vont là où ça bouge, là où on a su les solliciter, etc. Et puis après, il y a ceux qui sont quand même vachement de bonne volonté, mais qui répètent comme ils peuvent ce qu'ils ont toujours vu. Et puis, il y a tous ceux qui viennent consommer. Et alors là, des sacrements, du soutien, etc. Et c'est sûr que le tableau est un peu noir quand on arrive comme ça, parce qu'il se passe deux choses. D'une part, les paroissiens ne trouvent pas dans la paroisse ce qu'ils souhaitent. Donc quand on veut vraiment quelque chose d'important, style une retraite, du ressourcement, je vais partout sauf dans ma paroisse. Et puis le prêtre, il déprime parce qu'il est toujours en train de chercher quelqu'un pour les équipes mariage, les équipes baptême, les équipes funérailles, l'équipe d'animation paroissiale. À peine on a trouvé, il y en a un autre qui part et puis ceux-là, ils sont en conflit avec ceux-ci. Et du coup, je veux dire, moi j'ai été prêtre vraiment pour annoncer le Christ et pour le servir dans son église et avec son église. Et en fait, je me retrouve à gérer un espèce de truc impossible. C'est vraiment difficile. Et évidemment, en arrivant là, je me suis dit, bon, on va vraiment essayer de changer ça. Simplement, comment s'y prendre? J'avais pas de projet particulier. J'avais juste une soif de vivre l'évangile et une conviction profonde. La paroisse, c'est une chance incroyable. Parce que dans la paroisse, si on arrive dans une paroisse à tisser des liens de fraternité, à vivre entre nous l'évangile et à en témoigner, alors on montrera au monde entier qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'affection les uns pour les autres ou de s'être choisi pour vivre ensemble et vivre heureux, vivre unis, vivre de belles choses. Donc le challenge, il est énorme. C'est un des seuls lieux dans notre société où on vit sur un plan intergénérationnel. Ça va du bébé jusqu'au vieillard, de la mort à la vie. Il y a la souffrance et la joie, il y a tout. Il y a droite, gauche, handicapé, valide, on a des riches, pauvres, il y a tout ce qu'il faut quoi, pour représenter ce monde. Et alors, le challenge est énorme et le témoignage, l'enjeu du témoignage est important. Donc là, il y a une vision qui nous a vite habité, c'était d'être cette église qu'on a dans Apocalypse 21, donc cette Jérusalem céleste qui est la présence, donc Dieu avec son peuple, Dieu qui habite ici et qui donne déjà tout ce qui nous est promis en termes de victoire, de guérison et cette capacité d'en témoigner. Alors évidemment, j'en ai parlé avec des personnes que je voyais autour de moi et très vite, sur ma paroisse, j'ai rencontré Benjamin que j'avais vu juste en prenant pied sur la paroisse. J'étais venu avant l'été et puis je l'avais vu qu'il venait demander le baptême de sa dernière et donc on s'est revus à la rentrée. Je ne peux pas dire que j'étais un grand fan ou un grand connaisseur de Glorious. Et donc, je pense que ça a facilité aussi notre rencontre parce que je l'ai vu comme un paroissien qui avait la pêche, mais voilà. Pas plus que ça, quoi. Quelqu'un avec qui il fallait compter sur la paroisse. Et j'ai vu qu'en lui partageant ce que je viens de vous dire là, donc à la fois l'envoi du cardinal et puis les questions que je me posais, ça résonnait en lui. Alors, on a discuté et puis très vite, Benjamin a eu l'idée de remonter le groupe Glorious, qui s'était arrêté à ce moment-là, sur la paroisse. Parce que, comme j'étais un mordu de la paroisse, je lui expliquais que l'enjeu de la paroisse, en fait, théologiquement, c'est que c'est fidèle à l'incarnation du Christ. C'est-à-dire, le Christ, quand il vient sauver l'humanité, il vient dans un lieu. Et à partir de ce lieu, avec ses voisins, avec sur les bords du lac, à Béthanie et ailleurs, c'est avec eux qu'il va faire de grandes choses. Et à partir du moment où on est incarné, là on va rayonner dans le monde entier. Mais il faut vraiment être là où Dieu nous a plantés en quelque sorte pour vraiment porter du fruit. Alors nous avons discuté et puis comme ça un projet est né. Je vais lui donner la parole ainsi que Thomas pour qu'il nous en dise un peu plus.
Quand on a parlé ensemble, il y a eu une chose, en fait on a vécu un grand choc avec Thomas. Enfin, deux grands chocs. Le premier grand choc, ça a été Jean-Paul II, qui a été notre grand-papa spirituel, en fait, à nous. C'est-à-dire sa manière de vivre la foi, c'est-à-dire de s'inculturer dans le monde. Il n'y avait pas de dichotomie de rapport avec le monde et de l'évangile entre lui et ses rapports avec le monde. Lui, il allait prêcher l'évangile avec des micros. Regardez bien l'intuition des JMJ, ce que c'est. Une estrade, un homme, et qui donne des prédications devant 2 millions de jeunes. Regardez bien cette façon qu'il a eu à penser, alors que, soyons clairs, à la Curie, ce n'était pas la meilleure idée, on pensait au départ. Et regardez bien l'intuition aujourd'hui. personne aujourd'hui ne conteste voilà tout ce qu'a apporté les JMJ. Donc premier grand choc, et on a été élevé comme ça, c'est-à-dire inculturé avec lui, avec Jean-Paul II. Deuxième grand choc pour nous, la découverte d'une église évangélique qui s'appelle Hillsong, qui est née en Australie. Un pasteur, il y a 20 ans, il se pose une question: comment ça se fait que les jeunes ne viennent plus à l'église? On a le plus beau message du monde et ils ne viennent pas. Comment ça se fait? C'est de ma faute. Et il se le dit. Il ne dit pas c'est la faute des autres, c'est la faute du monde qui est plein de péchés ou quoi que ça. Il dit non, c'est que nous, on n'est pas attirants. Parce que nous, on a le plus beau message du monde, on doit porter le Christ au monde. Et il n'en dormait plus, comme nous en fait. Il n'en dormait plus à l'idée de se dire: on n'a plus personne dans mon église, il n'y a plus personne dans nos églises. Et il a cette idée un jour de dire: je vais louer une salle de concert et je vais dire aux jeunes de ma paroisse, de mon église: venez sur scène, vous jouez de la musique que vous voulez, mais je vous demande une chose, vous parlez de Jésus dans vos paroles. Ils font ça, en 1981 je crois, ils se lancent, ils sont 70 à la première soirée, aujourd'hui tous les vendredis soirs ils sont 3000 à se réunir. Et au culte du dimanche ils sont 18 000. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait quand même une belle proportion de développement. Nous, ça nous a mis une claque parce qu'on a découvert ça en regardant les DVD. On s'est dit waouh, ça cartonne, il faut qu'on fasse ça. Alors j'ai amené le DVD au Père David et j'ai dit: regarde ce qui se passe, regarde en fait surtout qu'est-ce qui était intéressant, l'inculturation de ces gens. C'est-à-dire que quand nous on se pose des questions sur est-ce qu'il faut mettre du latin ou du français ou du grec, non, eux ils sont en train d'avancer dans le monde et ils disent ok, on s'inculture. Et ça a été notre grand choc en fait, de découvrir ça. C'est-à-dire de se dire, mais attendez les gars, on est là pour donner l'évangile au monde, on est heureux. Fabrice Adjadj a donné une conférence à Paris Le Monial en donnant son thème en disant la joie de vivre dans le 21e siècle. La joie de vivre dans le 21e siècle, la grâce de vivre dans le 21e siècle. Nous, on est heureux d'être dans le 21e siècle, d'être dans l'ère numérique de Facebook. On est heureux d'être dans l'ère d'iTunes et des iPods. Et c'est notre culture. Et c'est notre façon de parler. Et on est heureux de notre génération qui vit sur des événements, sur des grands rassemblements, sur des choses très fortes émotionnellement. Et on ne peut pas le renier, ça. Et si on veut le renier, on a le droit. On a le droit de le renier. Mais vous ne toucherez pas le monde. Vous ne toucherez pas les nouvelles générations. Parce que c'est leur façon de penser et c'est leur façon de communiquer. Et là où ils sont très forts, les évangéliques, parce que ce matin, j'entendais, on en parlait, on n'arrêtait pas de les applaudir. Je me disais, tiens, je vais rebondir là-dessus. Eux, ils ne se posent pas la question. Ils se disent, ok, j'ai un message à donner. Les jeunes écoutent de la pop musique. On fait de la pop musique. Les jeunes sont sur Internet. Je suis sur Internet. Les jeunes sont sur les jeux vidéo. Je vais dans les jeux vidéo. Voilà. Vous voyez, il y a un moment donné où eux, c'est très clair. On a un message à donner. On y va. Et à partir de là est née l'idée de se dire, ok, on renouvelle Lyon Centre. Ok, on fait Lyon Centre et on va transformer une chapelle qui était à l'abandon en salle de concert. Et tous les jeudis, on va l'ouvrir. Et on va faire un groupe de prière, mais un groupe de prière professionnel. C'est-à-dire qu'on va donner de l'excellence. Ce qui nous a profondément marqué dans Hillsong, c'est ça, c'est l'excellence de la musique. C'est-à-dire que le batteur, le bassiste, le guitariste, le chanteur, ce sont des professionnels, des gens qui répètent, qui prennent du temps pour ça, et ça devient leur métier, et ils prennent un risque, et c'est un ministère. Et bien nous, c'est ce qu'on a essayé de faire en fait avec Thomas, et le 8 décembre 2008, on a ouvert Lyon Centre.
Voilà. J'ai vu une petite vidéo. Voilà, on invite les jeunes à vivre des soirées donc avec la musique, la louange, un peu comme élément, on va dire, fondateur de ces soirées. Mais au milieu, il y a toujours une prédication. Voilà, pendant donc vous avez vu, il y a trois temps en fait, comme dans le petit film, un temps de louange, un temps de prédication. Donc que donne la plupart du temps le Père David, mais aussi parfois quelques intervenants, quelques prédicateurs de l'extérieur. Et puis un petit temps qu'on appelle Connect Group, sur lesquels les jeunes vont pouvoir se rassembler et parler sur ce qu'ils ont vécu et entendu. Et puis on reprend ensuite voilà, la louange pour clôturer en fait la soirée. Donc le 8 décembre, eh ben, y a eu, techniquement, il y a 300 places dans notre chapelle et il y a 600 personnes qui ont débarqué ce soir-là. Donc ça a été un grand, beau moment. Une grande joie, parce que quand on lance un projet comme ça, nous on avait le feu dans le cœur, mais est-ce que ça va résonner dans le cœur des autres? C'est toujours quand même une question qui se pose. Et on nous a dit quelque chose dès qu'on a lancé ça, et c'était une grosse crainte des gens autour. C'était ça va pas durer, c'est beau, bravo pour ce que vous faites, mais une soirée, deux soirées, trois soirées, et après vous allez faire quoi? Et en fait ça fait un an et demi qu'on rassemble entre 200 et 400 jeunes chaque jeudi soir. Chaque jeudi soir, les jeunes viennent. Et alors c'était l'enjeu, c'était qu'en tant que tel, un groupe qui serait à l'affiche d'une salle de concert ou d'une chapelle, il l'attirerait pas comme ça. Et Glorious, on est sympa, c'est cool. Mais si les gens ils venaient pour Glorious, ils seraient pas là. Il y a que Céline Dion qui peut faire tous les soirs à Las Vegas des concerts. Donc nous c'est pas ça. Pourquoi est-ce que les jeunes viennent et reviennent? Ben parce qu'on les connecte directement. Vous avez vu là notre petit slogan, venez vous connecter à l'essentiel. L'objectif de ces soirées, c'est que les jeunes et les moins jeunes, je tiens à le dire, on est sur une paroisse, et il y a vraiment tous les âges qui sont représentés. On a quelques personnes âgées qui sont là tous les jeudis, ils ont leur chaise qui les attendent, et ils sont hyper heureux. Mais c'est important de le dire, parce que dans ce projet-là, on ne voulait pas tomber. C'est un risque souvent, les jeunes, dès qu'on amène des projets, c'est de dire on va se mettre entre nous les jeunes, et on va prier Dieu. Non, là l'enjeu c'était d'embarquer avec nous une paroisse, de vivre avec notre paroisse. Et la paroisse, le père David il l'a dit, c'est intergénérationnel. Donc on accueille les enfants, on fait des Lyon Centre Kids pour les enfants, on accueille les étudiants, on accueille les personnes âgées, tout le monde est le bienvenu et ça c'est hyper important. Voilà, j'ai un peu perdu le fil mais c'est pas grave. L'enjeu pour nous c'était donc, voilà, les jeunes, qu'est-ce qu'ils viennent vivre? Si, mais ouais, on parle comme ça, hein, y a pas de papier, c'est le cœur qui parle. Ce qui était important, c'était, voilà, ils viennent au-delà, voilà, de Glorious et du groupe, c'est qu'ils viennent vivre un moment où ils peuvent découvrir le Seigneur, où ils peuvent rencontrer en fait Jésus. C'est vraiment un endroit où on les invite à se tourner au fond de leur cœur, à faire la démarche de la présence de Dieu, la découverte de la présence de Dieu, et à partir de là. C'est des jeunes qui peuvent rayonner. C'est vraiment, on a souvent l'image, quand on pense à Lyon Centre, l'image un peu du Cénacle, où ils étaient 12, hein, les gars. Hein. Ils étaient 12, c'est quand même pas énorme. Hein. Et pourtant, on est là, moi je le revendique, on est là grâce à eux, grâce à ces gens-là qui n'ont pas eu peur. Donc l'idée, c'est ce petit Cénacle, former des jeunes, former des gens qui pourront à leur tour rayonner, qui pourront à leur tour témoigner, et voilà, et leur faire vivre une expérience forte. De la présence de Dieu par la louange.
J'ai vachement donné de temps, enfin je donne encore du temps pour Lyon Centre dans le service. Alors au début ça s'est passé, j'ai rencontré Benjamin et Thomas et on a fait ensemble une grosse partie des travaux de la chapelle et puis tout de suite dans cette chapelle et puis dans la paroisse, moi je voulais dire que je m'étais senti chez moi. Voilà, c'était une nouvelle maison, une nouvelle famille. Et ça, je pense que c'est important de se sentir bien dans sa paroisse, déjà, quand on veut agir. Et l'action, est donc, pour ma part, en tout cas, elle s'est faite dans les travaux de la chapelle. Mais tout ça en conscience, c'est la conscience, c'est qu'on construisait un outil d'évangélisation. Voilà, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est un outil d'évangélisation. Chaque clou, chaque planche, chaque pendrillon là, comme vous voyez ici là, tout ça là, c'est des outils, enfin c'est des éléments d'un outil d'évangélisation, et c'est très important qu'il y ait des gens qui puissent rendre service. Et donc voilà, on a fini et on a recruté des staffs. Voilà, alors maintenant moi je suis manager des staffs et manager des soirées, donc tout ce qui est matériel. Et derrière tout ça, voilà, il faut les encourager, les staffs. Et moi, je suis là à leur service. Voilà. Et donc, les soirées, moi, je les vis au niveau de la joie, d'une grande joie. Voilà.
De temps.
Donc.
Oui, c'est ça. Hein. Il semblait bien. Il semblait qu'on avait un peu de temps. Plusieurs choses. D'une part... On a parlé du modèle évangélique. Alors moi, c'est souvent une question qu'on me pose quand il y a des journalistes qui viennent. Par exemple, ils disent « Mais est-ce que vous ne vous prenez pas trop sur le modèle évangélique ?» Je dis « Vous voulez dire quoi, le côté religieux ? On est quand même chrétiens ensemble. » Non, mais le côté plutôt marketing, argent, etc. Je dis « On n'a pas de complexe à utiliser aussi les choses de notre temps. » On a parlé du rapport à l'argent ce matin. Je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on prenne le temps d'aborder ensemble. Parce que si on fait des choses de qualité, ça coûte des sous. Si ça coûte des sous et qu'on veut vraiment les faire, il faut trouver de l'argent. Je peux vous dire que quand on fait un projet de type entrepreneurial, c'est-à-dire où ça pulse, où on sent que ça donne du fruit, où les parents ils sentent que leurs enfants ils ont un lieu pour vivre leur foi et l'approfondir, comme par hasard, l'argent, il vient. Nous, chaque soirée, elle nous coûte 1 100 €. On fait une quête à la fin qui nous rapporte 400-500 €. Et pourtant, on arrive à trouver l'argent. Là, on a bouclé le budget jusqu'à l'automne. Comment on fait ? Bah parce que justement, quand on fait une proposition qui marche, ça attire. Et les gens, ils ont envie de participer, ils ont envie de donner. Alors, il y a un type de la Croix qui m'interroge de Paris. Il dit, mais ça coûte quand même vachement cher. Comment ça se fait que vous payez les musiciens ? Je disais, vous allez être payé pour votre papier. Et en fait, lui-même, il était surpris au téléphone. J'ai bien entendu de ma réponse parce qu'il était surpris de sa question, en fait. Un rapport vraiment bizarre à l'argent qu'il faut qu'on retravaille, nous, les uns et les autres, ici. Autre chose avec les évangéliques, je vais vous dire. Les évangéliques, ils nous donnent les moyens que nous ne prenons pas. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces moyens-là ? Eh bien, c'est parce que nous sommes endormis sur nos richesses. Vous voyez ? On a une dogmatique qui est forte, on a une vraie théologie, on a une histoire 2000 ans, on a des spiritualités, c'est du béton. Enfin, on a vraiment une richesse incroyable. On a l'adoration, on a l'Eucharistie, on a des traditions mariales qui sont hyper fortes. Et vous voyez, moi je sais que je peux aller à la messe. Il y en a maintenant, ils vont à l'église au lieu d'être l'église. Comme si c'est normal, on va leur donner les choses qu'ils attendent. Mais c'est pas ça. Vous voyez, on fait de notre richesse une pauvreté. Et c'est ça qui nous tue. C'est-à-dire qu'on a... On s'habitue finalement. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, la louange, est-ce qu'on ne l'avait pas ? Je veux dire, dans tous nos psaumes, on dit les offices tous les jours, c'est de la louange. Les sœurs de Pradine, elles sont à Rouen, elles nous disent, vous faites de la louange, nous aussi, venez chez nous. On est venu faire de la louange chez les sœurs. C'était du feu, pourquoi ? Parce qu'elles sont malines. Elles ont vu qu'on ne fait pas autre chose que ce que fait la tradition depuis toujours. Alors du coup, les évêques s'interrogent, alors ils disent, tiens, les musiques actuelles chrétiennes, il faut se poser la question, c'est quoi, ça marche comment ? Mais évidemment, il faut se poser la question, mais en fait, il faut qu'on soit riche de nos richesses, qu'on les vive vraiment. Alors les fruits maintenant, relecture pastorale en quelques mots. 1, Albicentre qui s'est créé il y a quelques mois. 2, Lorient Centre la semaine dernière. Voilà, Bologne en Italie qui est venu nous chercher. Et Benjamin qui doit y aller d'ailleurs. Création d'un DVD prochainement. L'idée c'est comment est-ce qu'on peut vivre cette dimension paroissiale dans une continuité. Donc les connect groups qu'on a en milieu de soirée, ils ont pour but que les jeunes qui ont ouvert leur cœur par la louange, qui ont ouvert leur intelligence par la prédication, ils puissent parler avec des paroissiens de tous âges pour voir, et ça, qu'est-ce que j'ai compris ? Comment je vais le vivre ? Et est-ce que tu peux me dire où je vais aller pour vivre ça ? Qu'est-ce que tu me donnes comme moyen pour continuer à vivre ce que j'ai reçu, à me nourrir ? Donc voilà, l'enjeu c'est de continuer avec une date événementielle, 10 novembre 2011, on souhaite vraiment faire un grand rassemblement, 10 à 16 000 personnes à la halle Tony Garnier, c'est notre objectif. Autre chose, donc les jeudis soirs, il y a pas mal de monde, mais on a relié les jeudis soirs au dimanche soir. Donc on est passé d'une messe de 130 personnes à 500 personnes, tous les dimanches soirs. Donc on voit aussi que ces soirées de louange, elles touchent les cœurs et elles redonnent le goût de l'Eucharistie. Et voilà, donc non seulement... Il y a un goût de revenir ou de vivre sa foi, mais aussi beaucoup de recommençants. Beaucoup de jeunes, toutes les semaines quasiment, qui disent, jeunes ou moins jeunes, qui disent, mais moi, j'ai envie de revivre ma foi, ça m'a redonné goût. Donc voilà, bah, après, il faut suivre derrière, là, on a un peu de mal. Parce que quand même, le point qui pêche, c'est l'objectif, c'est-à-dire que la paroisse soit vraiment concernée par cet événement. Vous voyez que la paroisse soit vivante d'un temps fort et ressourçant. Du coup, on vit de ça. On vit une fraternité, on vit une joie, on a envie que la paroisse, elle vive. On a envie de s'investir, de proposer des choses. Alors ça marche. Là, on est une bonne dizaine de paroissiens et devenus presque tous les uns les autres spontanément parce qu'on n'a pas eu le temps d'organiser bien notre voyage. Et moi, j'aurais aimé qu'il y ait 50 personnes. C'est-à-dire, on sent qu'au niveau de la paroisse, il y en a qui se disent c'est super ce qui se passe chez nous, mais ils n'ont pas encore pris le pli. Quoi. Ils ne se disent pas c'est moi, paroissien, qui fais vivre ça. Un gros enjeu difficile, mais on pourra peut-être en reparler ensemble. Voilà, juste pour comme objectif, donc pour moi en tout cas, que des paroissiens peu à peu se forment et puissent prêcher. Vous savez que dans les recommandations de l'Église, l'homélie, donc pendant la liturgie, elle est vraiment dite exclusivement par des prêtres ou des diacres, des évêques. En revanche, en dehors de la liturgie, tout laïc et doit être capable et peut prêcher. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a quasiment jamais de laïcs qui prêchent, vous voyez ? Donc là, l'Église nous dit, allez-y, les laïcs peuvent prêcher en dehors de la messe, c'est fait pour, et puis il n'y a personne qui prêche. Donc c'est dommage, on a des opportunités, vous voyez, mais On dit non, ça doit être le curé sûrement, ou ça doit être, je sais pas. Vous voyez, on reste encore, c'est sûr que nous on est bien formés, on s'engage beaucoup, tout ça. Mais là encore, peut-être qu'on s'endort sur ce qui nous est donné. Alors l'objectif final, c'est quoi ? Changer vraiment la relation laïc-prêtre, faire qu'une paroisse ne soit pas un prêtre entouré de laïcs, mais des laïcs qui fassent vivre la paroisse, servie par un prêtre, et une paroisse qui bouge beaucoup plus que ce qu'on fait. Ce qu'on a fait, c'est un tout début. On a vraiment envie qu'il y ait de la formation, qu'il y ait beaucoup plus justement une place donnée à l'informatique, à la vidéo, à des moyens de communication modernes, en fait à une fraternité paroissiale qui fasse que dans notre paroisse, on puisse se ressourcer, vivre sa foi et vraiment témoigner. C'est-à-dire que notre paroisse, par des liens fraternels, elle donne un témoignage au monde, un témoignage chrétien au monde, et qu'elle donne ce signal fort que c'est possible de s'aimer sur cette terre. C'est possible de vivre ensemble, c'est possible de vivre des belles choses, que ce royaume-là, il prenne sens et goût pour chacun. Voilà, alors on y croit.
Là, c'est sûr, vous allez vous endormir. Faire une petite citation du Concile Vatican II. L'Église étant tout entière missionnaire et l'œuvre de l'évangélisation étant le devoir fondamental du peuple de Dieu, le Saint-Concile invite tous les chrétiens à une profonde rénovation intérieure, afin qu'ayant une conscience vive de leur propre responsabilité dans la diffusion de l'Évangile, ils assument leur part dans l'œuvre missionnaire auprès des païens. Ad Gentes, numéro 35. En guise d'intro à l'intro. Je suis un prêtre de la génération Jean-Paul II. J'ai appris de ce successeur de Pierre lui-même la fierté et la joie d'être fidèle et disciple de Jésus-Christ. J'ai dû participer à une dizaine de JMJ à peu près, donc on ne me la fait pas. Hein. J'ai eu la grâce aussi, en 2001, 5 ans après mon ordination, d'être nommé par mon évêque de l'époque, Mgr Renaudin, comme aumônier des étudiants de Cergy et responsable, c'est un bien mauvais mot, plutôt délégué, pour les vocations. Parlons des étudiants de Cergy, 23 000. L'évêque m'a dit, Père Guy-Emmanuel, votre mission c'est de fonder l'église à Cergy. Je peux vous dire, allez-y, vous allez voir. Et Saint-Paul qui arrive à Corinthe, ça devait être un peu ça. Enfin, je ne suis pas Saint-Paul, hein, mais c'est la seule différence, mais sinon, ça ressemble. Je ne veux pas tout vous raconter, mais pour faire bref, c'est sûrement eux, ces étudiants, qui m'ont refilé ce virus de l'évangélisation, et je les remercie. Il y avait d'ailleurs parmi eux une certaine Maëlle Loriot-Prévost, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, et un certain Jean-Emmanuel, que j'ai eu la joie de retrouver ici, qui est séminariste. Alors, je fais plus que les remercier, je rends vraiment grâce à Dieu de les avoir rencontrés. Et puis ensuite, j'ai été nommé curé de l'Isle-Adam, la paroisse hyper classique dont on parle dans les tracts de l'évangélisation pour les nuls. Le curé, c'est moi, donc. J'allais vous dire, est-ce que j'ai l'air classique ? Bon, peut-être. C'est pas une paroisse classique, c'est une paroisse normale. Hein, classique dans le sens normal. Alors, en arrivant, en étant nommé curé, j'ai donc souhaité remplir ma mission de prêtre, ma mission de curé, et la prendre au sérieux. J'avais en plus, comme adjuvant à la mission de l'évêque, un amour personnel très fort pour Saint-Philippe Néri, ce grand saint évangélisateur de la Renaissance, qui disait « Ce qui dépasse mon bras ne m'intéresse pas ». Ça voulait dire « Ce qui dépasse mon bras n'est plus de mon ressort ». Ce qui voulait donc dire, ce qui ne dépasse pas mon bras est de mon ressort. Bon, je traduis. Hein. Un prêtre, c'est un collaborateur des évêques. Et la première mission de l'évêque, n'est-ce pas, Monseigneur, c'est d'annoncer l'évangile. Eh bien, le curé de paroisse y partage, à sa place, la même mission. Nous nous sommes donc lancés avec ma paroisse dans un projet d'évangélisation pour intégrer davantage de personnes à cette louange, à cette Eucharistie. Alors j'ai bien conscience d'être au milieu de vous comme un petit joueur. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont des pros de l'évangélisation, il y a même des people de l'évangélisation. Mais enfin, le titre de ce colloque m'a encouragé. L'évangélisation pour les nuls, bon. Alors, il y avait quand même une petite spécificité à notre projet, qui peut paraître orgueilleux, mais qui ne l'était pas. C'était de faire confiance à nos richesses et de ne pas faire appel à une communauté nouvelle qui sait le faire, qui sait évangéliser depuis bien longtemps maintenant. On s'est dit non, on va essayer de le faire nous-mêmes. Alors, ma première partie, ça s'appelle « Un projet né dans une paroisse normale ». Alors, première partie de la première partie, qu'est-ce qu'une paroisse normale ? Eh bien, ma paroisse était plutôt en bon état de marche quand je suis arrivé. Les tâches essentielles étaient assurées. Il y avait même les prémices de l'évangélisation avec un parcours alpha qui existait depuis déjà 3 ans, qui existe toujours et qui tient chaque année ses belles promesses. Mais c'est aussi une paroisse française, au cœur d'une église de France touchée par le vieillissement, la perte progressive de l'espérance face à un monde apparemment éloigné, voire hostile à l'Évangile. Or, le projet, il est né tout simplement à la fois de cette mission que l'évêque m'avait confiée, mais aussi d'une analyse de la réalité, vieillissement, non-remplacement de certains acteurs pastoraux, et puis, de manière plus grave encore, repli sur soi. Le monde n'est pas gentil avec nous, j'ai entendu dire ça. Nos petits-enfants ne sont pas baptisés, etc., etc. C'est ça une paroisse normale. Vous reconnaissez la vôtre peut-être, c'est ça. Alors, ce désir pastoral est né aussi au sein de l'Église universelle qui se pose la question de l'évangélisation. Ça, c'est très important. Ce n'est pas la petite paroisse de l'Isle-Adam au bord de l'Oise, c'est très beau, vous pouvez venir voir, c'est magnifique, il y a une belle forêt et tout. Mais ce n'est pas simplement nous, dans notre petit coin, qui nous sommes posés la question de l'évangélisation. C'est aussi l'Église, avec un E majuscule, qui se pose très fréquemment maintenant cette question de l'évangélisation. J'ai voulu d'ailleurs me saisir beaucoup de l'invitation du pape Paul VI, vous voyez, c'est pas tout neuf, en 1975, qui lançait dans sa lettre Evangelii Nuntiandi, qui doit être, enfin j'imagine vous connaissez tout ça absolument par cœur. Si c'est pas le cas, il faut que ce le soit l'an prochain pour le prochain congrès. Alors, il faut entreprendre sûrement tout un travail pour permettre de comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'évangélisation et de quoi il ne s'agit pas. Et il faut travailler, pardon pour ceux qui ont plus de 50 ans ici, pardon vraiment, mais je vais pas dire du mal de vous, mais il faut travailler avec une génération à qui on a cessé de dire, alors là je vais citer un certain nombre de slogans, il faut mettre des guillemets, c'est plus moi qui parle. L'important, c'est la manière dont tu agis et pas ce que tu auras à dire. Deuxième phrase, il faut être tolérant et ne pas imposer ses idées. Troisième phrase, qui était quand même marquée en grand dans la salle paroissiale de ma première paroisse d'insertion quand j'étais séminariste, il y a bien des non-chrétiens meilleurs que les chrétiens eux-mêmes. Finalement, le constat est un peu amer quelques années après. On se rend compte du creux de ces remarques et surtout de leur inefficacité. Je pense à ce chrétien retraité qui est chez moi à la messe tous les jours, dont aucun des 17 petits-enfants n'est baptisé. Ces slogans ont laissé une génération avec une espérance faible. Pourquoi ? Eh bien, on a tellement dit que c'était la manière dont on agissait qui devait vraiment amener au Christ. Quand on regarde la réalité, c'est-à-dire des églises à moitié vides, on se dit on a vraiment été des gros nazes, on a été des nuls. Et notre manière d'avoir incarné l'évangile a été lamentable. Donc ça fait naître quoi ? Ça fait naître de l'amertume et beaucoup de culpabilité. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Hop, on ouvre Evangelii Nuntiandi numéro 22. Cela reste toujours insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié, ce que Pierre appelait donner les raisons de son espérance, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être, tôt ou tard, proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie, c'est hard comme phrase, hein, c'est du Paul VI, hein. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Voilà, je pourrais m'arrêter là, hein, mais je continue quand même. Enfin, c'est le dernier point de cette petite analyse. Il me semble que c'est bien une théologie du salut qui a manqué cruellement à cette époque. Si tout le monde est déjà sauvé, à quoi bon évangéliser? Si les autres sont meilleurs que nous, c'est déjà un scandale d'ailleurs, qu'allons-nous montrer au monde? Mais voilà, alors les papes là-dessus, j'ai parlé de Paul VI, on pourrait parler de Jean-Paul II, de Benoît XVI. Je me souviens de Jean-Paul II au JMJ de Denver, qui disait « Il est temps maintenant de sortir sur les places des villes, à Avignon, disait-il, non, il ne le disait pas ça, mais... Il est temps de sortir sur les places des villes, annoncer Jésus-Christ. » Bon. Eh bien, les papes, les évêques, l'Église parlent aujourd'hui de l'évangélisation sans que ça effraie autant qu'autrefois. En 1989, quand je suis rentré au séminaire, on lançait à un repas de curé le mot évangélisation. Je peux vous dire, on n'arrivait pas au fromage. Hein, parce que... Non, non, le mot faisait peur. On pensait à croisade, on pensait à je ne sais pas quoi. Alors, on a eu des étapes préparatoires à notre propre projet. On a fait, pendant 2 ans, 6 journées de fraternité qu'on a appelées des DVD, des dimanches, vraiment dimanches, avec comme premier objectif de renforcer la fraternité. Et j'étais content que Père vous en parliez tout à l'heure, parce que c'est essentiel. Il n'y a pas d'évangélisation s'il n'y a pas d'abord un noyau, s'il n'y a pas d'abord... une paroisse de gens qui s'aiment. C'est fondamental. Excusez-moi, j'enfonce des portes ouvertes, mais... Prendre conscience des richesses de chacun. Prendre conscience de toute notre richesse. C'est énorme. Il y a vraiment une maladie diabolique dans l'Église, c'est celle d'hurler à la mort tout le temps. Ça, c'est une vraie pitié. Enfin, c'est ce que je pense. On peut hurler à la mort jusqu'à la fin des temps en se disant... Les gens ne sont pas comme ils devraient être, ils n'écoutent plus notre message, les vilains. Bon. Mais on peut aussi se demander si, un, ils ont déjà entendu parler vraiment de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile, et deux, se demander s'il ne nous revient pas à nous, chrétiens, de reformuler notre message, de trouver les manières de rejoindre les autres. Et je pense tout le temps à saint Paul à Corinthe, excusez-moi, mais quand vous voyez Corinthe, ça ressemble un peu à notre monde. C'est un vrai bazar, pour ne pas utiliser un autre mot. C'est un autre mot d'ailleurs, hein, Corinthe aussi. Il y a des idoles, il y a beaucoup de prostitution, grande ville de commerce, ultra-libéralisme à tout craint, etc. Ben, saint Paul, est-ce qu'il a hurlé à la mort en arrivant à Corinthe? Il était tout joyeux de porter l'annonce de Jésus-Christ. C'est une différence de taille, ça, hein. Il me semble. Je pense aussi à mon ancien évêque, Mgr Renaudin, que je cite pour la 2e fois, parce que c'était un saint, il est resté 2 ans évêque de Pontoise avant de mourir d'un cancer. Et il disait, il y a 2 manières de voir notre vie de chrétien aujourd'hui. Et j'aime bien, parce que c'est très parlant. Ou on est dos au mur, ou on est face au large. Voilà. Souvenez-vous de ça. Alors, renforcer la fraternité de la communauté... Assurer une formation théologique de base sur le salut, sur l'évangile, sur l'évangélisation. Reprenez le plan d'Evangelii Nuntiandi, il vous donnera ce que vous aurez à faire. L'année Saint-Paul a d'ailleurs merveilleusement conclu cette réflexion. Pour cette formation sur 6 journées, j'ai largement puisé, comme je vous le disais, dans la lettre de Paul VI, Evangelii Nuntiandi, qui ne cesse de m'émerveiller, tant le pape avait tout anticipé. C'est extraordinaire. Il l'a écrite en 1975. Ceux qui ont connu cette période savent que ça a été une période de crise sans précédent dans l'Église. C'est un moment de grande désillusion pour beaucoup, de beaucoup de déceptions. Le pape aurait pu essayer, je ne lui donne pas un conseil, il est mort maintenant, il aurait pu essayer de resserrer les boulons en disant « Bon allez, les gars, fini, on va maintenant appliquer le concile, on fait cesser les excès à droite à gauche. » Bon, il aurait pu essayer. Eh bien non, à la place de cela, il écrit ce document majeur de son pontificat. C'est comme s'il était parti en 1975 avec son bâton de pèlerin au bord du lac de Tibériade pour réécouter in situ l'envoi des disciples par Jésus. Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à suivre mes commandements. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est comme s'il repartait à la base de l'expérience apostolique, qui est l'envoi en mission. Eh bien, le successeur de Pierre fait ça. Il fait ça en 1975. Et je peux vous dire, il avait tout vu dans cette lettre apostolique. C'est comme s'il avait invité à l'époque toute l'Église à cesser ses querelles, à retrouver son dynamisme au cœur d'une vie de foi renouvelée, à accueillir la force de la présence de l'Esprit Saint en elle, la force extraordinaire de la parole de Dieu et des sacrements de l'Église. Renforcer la fraternité, petite formation de base théologique, mais nécessaire. S'il n'y a pas ça, on part sur des choses qui ne sont pas communes. Hein. Et puis, troisième chose, se préparer directement aussi à l'évangélisation de rue. Ça s'apprend un peu quand même. Hein. Alors on a fait venir quelques pros, il y a Jean-Baptiste Maillard qui était là tout à l'heure, que j'avais rencontré dans un train quelques mois avant. On a fait venir aussi un autre prêtre, un autre séminariste qui avait l'habitude de le faire. Il y a la guitare qui a joué là ? C'est vrai ? D'accord. J'ai bientôt fini. Ah non, pas encore. Et puis on a largement invité les paroissiens à se mêler à cette expérience en disant bien que tout le monde était bienvenu, vous voyez. Tout le monde n'était pas forcément prêt à aller dans la rue. On a dit peut-être un peu par ruse, mais on a dit, c'est pas grave, vous irez pas dans la rue, mais vous pouvez travailler aussi à l'évangélisation. Et alors, on avait besoin de gens qui priaient dans l'église pendant que les autres allaient évangéliser dans la rue. On avait besoin de gens pour découper les milliers de petits pains de la parole et tout ça. Ben, y a des petites vieilles qui ont fait ça. Ben, c'était super. On dit, vous êtes des grandes évangélisatrices. Mais c'était vrai en plus. C'était vrai. Alors, on a donc eu une semaine d'évangélisation à la Pentecôte 2010. Le projet a été piloté par une paroissienne qui est ici. 2009, pardon. Oui. Le projet a été piloté par Christine, qui est ici, qui vous pourrez parler, qui est là-bas. Et une équipe s'est montée, et pendant 7 jours, il y a eu une évangélisation de rue par équipe de 2 personnes le soir. Ces moments d'évangélisation étaient introduits par un moment de louange à la chapelle de la Vierge, dans l'église paroissiale. Les priants, comme les évangélisateurs, avaient été bénis à la messe du dimanche précédent devant toute la communauté. Ils sont donc ceux qui ont évangélisé, sont sortis dans la rue pour engager la discussion et inviter à une grande soirée de prière la veille de Pentecôte. Ils ont donné à chacun un petit pain de la parole, vous savez, ces phrases de l'Écriture. Alors c'était un pain de la parole pré-plié, et donc on avait une partie aussi vierge sur laquelle on pouvait écrire une intention ou le nom de la personne et le diviser. Alors le premier bilan qu'on a fait, le premier jour, je m'en souviens, à la fin de ces heures d'évangélisation, Mais c'était déjà une Pentecôte dans l'église, une joie toute spirituelle reposait sur ces personnes et leur curé. Chacun y allait de son histoire et de son commentaire. Et deux choses tout de suite ont prévalu. Le message est bien accueilli, surtout par les jeunes, et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on craignait. C'est déjà pas mal. Les priants aussi n'avaient pas vu le temps passer, et les uns et les autres étaient très heureux de cela. Alors, je vais rapidement sur les fruits. Ils ont été nombreux. Annoncer le Christ, ce n'est pas d'abord témoigner de nous, c'est « regardez-moi et vous croirez », mais « regardez-le et vous croirez », ou « regardez les merveilles qu'il a fait pour moi et vous croirez ». L'évangélisateur est tout pauvre, mais riche du Saint-Esprit qui repose sur lui. Eh bien, le fruit de l'évangélisation pour une paroisse, c'est un plus grand désir de Dieu, un plus grand désir de le connaître, de le prier, de le servir, un plus grand amour des frères, une plus grande attention aux plus petits, une plus grande fierté de lui appartenir, de l'inclure dans notre vie familiale, professionnelle. On a déjà renouvelé, fort de cela, l'expérience à Noël et avant la Semaine Sainte. Avec une nouveauté, c'était aussi d'évangéliser avec des enfants qui sont allés dans la rue, avec, pas tout seul, avec un adulte. Ça a été aussi quelque chose, bon, on a commencé humblement, mais on va continuer dans ce sens-là, et au dire de ceux qui l'ont fait, c'est vraiment génial. Alors cette année, j'ai surtout demandé à tous les mouvements et services de la paroisse, une cinquantaine, d'entreprendre une réflexion sur la mission pour un renouveau paroissial. Nous aurons le mois prochain un rassemblement qui mettra en commun tous les projets missionnaires. J'ai demandé à chaque mouvement et service de présenter un projet missionnaire pour l'an prochain. Donc ça va dépoter, j'espère. Et voilà, je tiens à votre disposition la grille de travail que j'ai proposée pour mes paroissiens. Il y a eu aussi un fruit sur lequel je ne m'étendrai pas par discrétion. Ça a été des guérisons miraculeuses. Il y a eu des guérisons miraculeuses le jour de Pentecôte, pendant la vigile. Des choses voilà, dont on parlera peut-être plus tard, mais magnifiques. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, puisque Jésus lui-même l'annonce. Je conclus. Le but, maintenant je peux vous le dire, était double à cette évangélisation. Évidemment, il était d'obéir à Jésus-Christ, aller dans le monde entier, faire des disciples. Ok, très bien, on est des braves gars, on obéit, on le fait. Mais moi j'avais un autre but aussi. Et ce but, c'était que ma paroisse se renouvelle, qu'elle soit habitée vraiment par l'Esprit et que chaque chrétien puisse grandir, que chaque service puisse grandir, que chaque mouvement puisse se renouveler dans une plus grande fidélité, un plus grand amour du Seigneur et de l'Église, une plus ardente participation à la liturgie et à la vie sacramentelle. L'évangélisation en paroisse, c'est possible et ça peut rapporter gros. Amen.
Bonjour à tous. On m'a demandé de faire une intervention de 25 minutes sur deux thèmes. Le premier, c'est l'expérience que je retire de ma charge de curé de Sanary. Et puis aussi, comme supérieur de séminaire, quelle vision pour préparer des prêtres à être missionnaires, bien sûr. Alors, je ne vais pas vous parler de la méthode des cellules paroissiales d'évangélisation. Cellule avec un s-évangélisation.org. Vous avez pu écrire cellule avec un s-évangélisation.org. Là, vous avez ce qu'il faut comme renseignement. Qu'est-ce que ça m'a fait comment ça m'a fait réfléchir? Et si, par la grâce de Dieu, je retrouvais une responsabilité pastorale de ce type-là, qu'est-ce que je retiendrai comme point essentiel? Parce qu'il ne s'agit pas de s'accrocher à une méthode, simplement, mais de voir des fondamentaux. Alors, quels sont les fondamentaux qui apparaissent clairement dans ma tête? D'abord, il y a l'articulation grande assemblée autour de l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie fait l'Église. Et notre but, c'est d'amener les gens au festin des noces de l'agneau, tout de suite. Donc de les amener autour de la table du Seigneur, de la table eucharistique, le dimanche. cette grande assemblée eucharistique, et puis les petites communautés ecclésiales de base. Vous appellerez ça comme vous voudrez, maisonnées, cellules, petites fraternités, etc. Mais, alors vous savez tous pourquoi, hein, c'est parce qu'il y a ce besoin de relations personnelles, interpersonnelles, qui va permettre la progression de chacun, que chacun se sente accueilli, fasse l'expérience véritablement d'une attention particulière, d'une charité fraternelle. Et il va pouvoir y avoir un suivi personnalisé. Donc ça, il faut structurer la communauté paroissiale par des petites fraternités. Ça, c'est le premier point qui me semble très, très important. Le deuxième, qui semble peut-être très exigeant et pas toujours compris, qui fait peur aux curés et qui fait peur aux paroissiens, c'est le rythme hebdomadaire de la rencontre de ces petites fraternités. Alors, vous avez beaucoup de vos paroissiens qui vont dire « Mais non, on en a trop, c'est impossible. » Alors, c'est là qu'il va falloir continuer à veiller à une transformation des mentalités. Parce qu'on ne fait pas ça pour les paroissiens qui, effectivement, ont peut-être tout ce qu'il faut et puis connaissent le Seigneur depuis longtemps. Mais la paroisse a à se mettre en posture missionnaire, c'est-à-dire qu'elle pense non plus en fonction d'elle-même, mais en fonction de ceux qui ne l'ont pas encore rejoint. Et si vous voulez être rigoureux et sérieux dans l'entreprise évangélisatrice, il s'agit de permettre aux personnes qui sont loin de l'Église de se plonger dans un bain qui va permettre une transformation de leur esprit, de leur cœur. Et ce n'est pas avec des rencontres épisodiques ou une fois par mois que la conversion va véritablement se faire. Ce qui veut dire que cette rencontre hebdomadaire, elle va demander évidemment aux responsables beaucoup plus qu'une rencontre hebdomadaire. Mais il ne faut pas reculer sur ce point-là. Parce que si vous cédez sur ce point-là, à ce moment-là, vous pensez en fonction des chrétiens et non pas des autres, et vous ne vous donnez pas la possibilité de transformer en profondeur ceux qui le Seigneur va vous envoyer. Et même si vous êtes incompris au début, vous allez progressivement préparer les gens à cela, leur faire faire des petites expériences, études d'évangélisation dit, indispensable. Et pendant 6 semaines ou plus, et vous les réunissez toutes les semaines. Et puis, d'autres moyens encore. Que le rythme hebdomadaire devienne normal. Condition indispensable pour créer une communauté. Troisième point que je retiendrai, c'est la notion d'oïkos. Alors, permettez-moi de développer un peu ça quand même. Oïkos, maisonnée. C'est comme ça que la première évangélisation s'est faite et qu'en 3 siècles, le bassin méditerranéen est devenu chrétien. Il n'y a pas eu une stratégie très élaborée, sinon celle de la charité et de la passion d'annoncer le Sauveur. Et ça s'est fait comment ? Eh bien, en évangélisant ceux qui étaient autour de nous. Alors vous avez des tas de passages bibliques dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, qui montrent comment, en touchant quelqu'un, Zachée est touché et il invite ses amis autour de lui. Et d'autres, le centurion qui se convertit avec toute sa famille, à toute la maisonnette, tout son oïkos. Et il s'agit de faire comprendre aux paroissiens que tout le monde a un oïkos. Tout le monde a, on ne demande pas forcément une évangélisation un peu extraordinaire. Non, c'est dans le fil des rencontres régulières, hebdomadaires, que va se faire cette première évangélisation. Mais je suis en charge de ceux que je rencontre habituellement. Je dis bien habituellement. C'est-à-dire ma famille, mes amis, les voisins, ceux du travail professionnel que je rencontre évidemment tous les jours. C'est ceux-là qui me sont confiés. Et c'est ceux-là que je vais devoir évangéliser. Avec cette phrase qui va être dite et redite, effectivement, d'Evangelium dit au numéro 22, le témoignage de vie est insuffisant s'il n'est pas accompagné tôt ou tard du témoignage de la parole. Pour annoncer le nom, les promesses, le nom de Jésus. Et ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire cela. Et donc le curé doit, par son enseignement, par sa prédication, doit insister pour que chacun se mette petit à petit dans une posture d'évangélisation de son oïkos, de son entourage. Alors qu'est-ce que ça va entraîner, ça? Puisque vous avez des petites communautés fraternelles qui se réunissent chaque semaine, puisque chacun est formé à évangéliser son entourage, eh bien ça enregistre tout de suite la notion, ça provoque tout de suite la notion de multiplication, puisque vous allez accueillir ces gens-là. Chaque oikos évangélisé va à son tour devenir évangélisateur. Alors là, je fais une petite parenthèse parce que la tradition catholique, missionnaire catholique, de ce point de vue-là, est déficiente. Quand vous écoutez l'expérience de l'évangélisation en Chine, vous êtes devant un phénomène très étonnant. Au début du XXe siècle, vous aviez 1 million de protestants, vous aviez 3 millions de catholiques. Et au début du XXIe siècle, vous avez, les chiffres se recoupent à peu près, même s'ils ont plusieurs statistiques, mais grosso modo c'est cela, 12 millions de catholiques et 50 millions de protestants, surtout évangéliques. Pourquoi ? Parce que le pasteur pense évangéliser en faisant entrer dans la communauté. Tandis que l'évangélique évangélise, et dès qu'il a évangélisé quelqu'un, il lui apprend à évangéliser. Et la différence, évidemment, est, vous la voyez, très importante. Et nous, catholiques, nous sommes forts pour... l'enseignement, la catéchèse, nous sommes forts pour, nous savons célébrer les sacrements, nous sommes forts pour connaître la vie morale et essayer plus ou moins de l'appliquer, pour la vie caritative. Et en ce qui concerne l'évangélisation, là, il y a un déficit. Autrement dit, une paroisse qui comprend qu'elle n'est pas là simplement pour accueillir des gens, mais pour les former à évangéliser à leur tour. Cette notion de multiplication d'église en croissance. Et puisque cette évangélisation de l'oïkos entraîne une multiplication, et donc une multiplication de ces petites cellules qui accueillent, de ces petites communautés qui accueillent, il va y avoir une priorité, un point essentiel, qui est la notion de leadership. Qui va devenir une des priorités du pasteur. Et c'est d'ailleurs un principe très biblique. Dieu en choisit toujours quelques-uns pour atteindre la multitude. Il prend Abraham, il prend Moïse, et il prend tous les prophètes, et puis l'histoire de l'Église. À partir de quelques-uns, le Seigneur va toucher la multitude. Donc la notion de leadership, elle est capitale parce que s'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de possibilité de multiplication. Et bien, il y aura stagnation de la croissance. Et finalement, c'est moins les petites communautés qui se multiplient que les leaders qui vont se multiplier parce que le curé aura insisté particulièrement sur la formation de ceux qui sont appelés à guider. Et l'autre point fondamental va être la formation. Formation, comme l'a dit le père qui m'a précédé, formation fondamentale, biblique, catéchétique, ça c'est indispensable évidemment, suivant les différents niveaux de maturité de ceux qui entrent progressivement dans la communauté. Donc c'est un lourd travail pour le pasteur, que de mettre en route différents types de formations. Il profitera évidemment de ce que le diocèse réalise. Mais il va lui falloir lui-même, évidemment, établir des modules de formation adaptés à chaque niveau pour qu'il ait aussi une croissance progressive. Et puis il y a un autre type de formation. Vous savez qu'il y a 3 modes de formation. Il y a la prédication, il y a les programmes les sessions, les cours, tout ce qu'on peut proposer, donc des enseignements bien structurés, etc. Et puis il y a un autre type de formation qui est le parrainage, l'accompagnement un à un. Et vous voyez ça dans les adieux de Paul à Milet, dans les Actes des Apôtres. Souvenez-vous que je vous ai formé nuit et jour un à un. Ce type de formation qui n'est pas assez développé chez nous et qui fait que chaque leader va être capable de former celui qui après lui va devenir responsable de cette petite fraternité qui va se démultiplier. Cet accompagnant un à un, Jean, dans son épître, décline trois niveaux de maturité chrétienne, les nouveau-nés, les enfants, les jeunes, puis les pères. Et il s'agit de mettre chacun, et les jeunes et les pères, en formation, eux-mêmes de formation, de formateurs. Pas simplement recevoir la prédication générale du dimanche qui est capitale, parce que le pasteur parle à son peuple, ou alors cet enseignement qu'il donne chaque semaine, à travers les cellules, il donne un enseignement. Pas simplement les sessions qui ne permettent pas de rejoindre la personne, de l'accompagner dans son cheminement personnel, la faire croître. Il faut un parrainage. Alors vous voyez que petit à petit, la structure même de la vie paroissiale est une structure d'église en croissance, où tout est fait pour permettre la croissance. Il faut donc bien avoir une vision claire et que le pasteur va devoir transmettre lucidement, clairement, prendre le temps, transmettre à l'ensemble de sa paroisse, qui va sentir qu'il y a une pensée et qui sait où le pasteur veut la mener. Et quand vous proposez une évangélisation structurée, pensée, accompagnée, alors ne vous inquiétez pas, les gens suivent. Parce qu'ils savent bien que la communauté chrétienne, elle est faite pour évangéliser. Il me reste un quart d'heure. Ou un peu moins. Deuxième sujet. Comme supérieur de séminaire, l'évêque m'a demandé d'être en même temps modérateur d'une fraternité missionnaire que je vais inviter à venir ici, qui va se présenter à vous. Parce qu'évidemment, ça influe dans la manière de voir la fonction de supérieur. Non, ils n'ont pas l'air de réagir. Ils n'ont pas trop appris l'obéissance, en fait. Alors, je vais demander à Stéphane, qui est diacre et puis qui est responsable de la maison de vie commune, la Garéjade, pour ceux qui viendraient nous voir à la Castille, de présenter rapidement la fraternité.
Bonjour. Oui, donc, écoutez, la fraternité missionnaire a été fondée par Monseigneur Ray, qui a beaucoup de projets un peu fous, il y a quelques années. L'intuition est la suivante. Pour que les communautés chrétiennes deviennent vraiment des communautés qui évangélisent, des communautés qui ont un impact réel sur les territoires où elles sont établies, eh bien, il faut que les pasteurs eux-mêmes soient vraiment des pêcheurs d'hommes, des gagneurs d'âmes, des gens qui sont habités par cette passion de l'Église et cette passion pour l'évangélisation. Et ça veut dire que il faut des prêtres un peu consacrés à ça, qui soient vraiment dans cet état d'esprit-là. Et c'est ça qui nous a réunis de tous les coins de la France à Toulon pour être prêtres en paroisse. On croit aussi en la paroisse. On croit aussi en la paroisse, que la paroisse a un potentiel énorme. Voilà, donc on veut vivre la mission à fond. À côté de ça, il y a des sœurs qui se sont senties interpellées pour porter le ministère des prêtres dans la prière, dans l'offrande de leur vie, et puis aussi pour participer également à la mission de l'Église. On a eu un projet aussi d'associer des amis à ce que nous vivons, dans un embryon de communauté d'alliance qui, figurez-vous, rassemble un membre qui est évangélique dans la fraternité missionnaire Notre-Dame de la Mission. Voilà, donc c'est l'un d'entre nous qui est là. Voilà. Le violoniste. Donc nous vivons pour la mission, et en vivant pour la mission, eh bien nous voulons vivre à fond la prière et la vie fraternelle. Voilà, donc c'est un peu les trois mots-clés, la prière, la vie fraternelle et puis la mission. Donc rien d'extraordinaire, mais comme tous les dons que Dieu fait, ils sont énormes, mais on peut les laisser se recouvrir de poussière, et donc il faut secouer de génération. Chaque génération doit retrouver ce que Dieu a donné, et donc nous, c'est ce qu'on veut vivre en vivant un sacerdoce vraiment orienté vers l'évangélisation. Voilà.
Pour clore le sujet sur les cellules d'évangélisation, vous avez un livre très intéressant, très bien écrit, de manière assez nerveuse, par celui qui fut le vicaire de Don Pidgey. Évangéliser en paroisse a été réédité, donc vous pouvez vous le procurer. C'est assez stimulant comme lecture. Alors, très rapidement, comme supérieur de séminaire, comment préparer des nouvelles générations de prêtres à être plus missionnaires? Vous savez, il n'y a pas de recette miracle. Novo Millennio Ineunte, ce document magnifique de Jean-Paul II, pour ce document qui ouvre le troisième millénaire, dit qu'il y a un seul programme, c'est repartir du Christ. Voilà, c'est ça le cœur de la mission et de la préparation des prêtres. Il faut revenir au Christ. Et pour cela, il y a un maître mot, je pense, c'est celui, le mot radicalité. Il faut que la vision proposée soit très claire, qu'elle soit limpide. La mission de la communauté chrétienne, et donc du futur pasteur, il doit bien comprendre que c'est de faire voir le royaume ici-bas. On n'a pas d'autre objectif que ça. C'est limpide, clair, et on ne va pas se laisser distraire par un autre but que celui-là. Le Verbe s'est fait chair, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, ce que nos oreilles ont entendu, nous vous l'annonçons. Cette vie auprès du Père. Il faut la manifester. Ils ont vu, ils ont touché, ils ont vu le royaume. Puis, le royaume est là puisque je suis au milieu de vous. Et qu'est-ce que l'Église sinon la présence du Christ au milieu du monde? Donc notre seule tâche, notre grande tâche, c'est de faire voir le royaume. Et comme il n'y a pas d'évangélisation, on l'a dit tout à l'heure, sans croissance dans l'amour, Dieu est amour. Et une évangélisation non accompagnée par l'amour, c'est quelque chose qui, très vite, on crée l'espoir, parce que la proclamation est belle, et on ne voit pas après. Et la communauté se divise. Donc il n'y a pas d'évangélisation sans croissance dans l'amour, ce qui implique une spiritualité de la communion. Et pour l'Église de France là-dessus, l'Église en France là-dessus, a à faire attention parce qu'elle n'est plus dans le temps où elle se suffit à elle-même, où un presbytérium est né du terroir, du diocèse, et peut remplir toute la mission apostolique. C'est fini, ça, pour un temps en tout cas. Alors dans notre diocèse, nous avons la grâce, dans notre séminaire, de préparer de faire vivre cette spiritualité de la communion parce que, pour répondre aux besoins du diocèse, ben notre pasteur a fait venir différentes communautés au service du diocèse. Et la palette est aussi large que ce que l'Église catholique permet, reconnaît comme chemin valable d'expérience chrétienne. Donc ça va des séminaristes qui sont attirés par la forme extraordinaire du rite, jusqu'à, et nous avons la grâce d'avoir un séminariste qui vient de la JOC, et à tout seigneur, tout honneur, en fait il est du diocèse d'Avignon, et il est ici présent. Bravo. Mais il nous permet de vivre la spiritualité de communion. On ne va pas le faucher à Avignon, Monseigneur. Mais il nous permet de vivre la spiritualité de communion. Et puis au style charismatique aussi, l'expérience forte, charismatique. Des communautés du Brésil, vous le savez tout ça. de différents pays. Et alors c'est très touchant de voir ensuite des jeunes prêtres qu'on a eus comme séminaristes, eh bien, vivre une pastorale précisément communionnelle. Parce qu'ils ont vécu ça au sein même du séminaire. Une spiritualité de communion qui fait que mon charisme n'est pas la réponse aux besoins de toute l'Église, je passe. Pas d'évangélisation sans croissance dans l'amour, ça veut dire qu'au sein de la formation au séminaire, et selon une forme particulière pour chaque communauté, lorsqu'un séminaire est dans une communauté, une vie fraternelle basée sur les conseils évangéliques. Pauvreté, chasteté, obéissance. Pauvreté parce que Dieu seul suffit, et il faut le montrer, que Dieu seul suffit, on est dans l'ordre de la relation, de l'être, et on n'a pas besoin d'avoir, de trouver notre assurance dans ce qu'on a. La chasteté, parce qu'il s'agit de ne pas mettre la main sur personne, de ne pas vouloir posséder, dominer, mais être le serviteur. L'homme chaste ne possède pas, ne domine pas, mais il sert. Et il devient un être de communion. L'homme vierge, la beauté de l'homme vierge, est revirginisé s'il le faut, parce que l'appartenance au Christ permet précisément cette revirginisation, cette appartenance totale. Et c'est cette radicalité-là qui va faire voir le royaume. Et voyez, il ne s'agit pas simplement d'être un peu, de jouer un peu à la pauvreté, avec la chasteté et l'obéissance. L'obéissance nécessaire, elle dépossède de la volonté de puissance. Il faut regarder Jésus. Je ne fais rien pour moi-même. Je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je vois faire par le Père, je le fais. Tout ce que le Père me dit de dire, je le dis. Cette dépendance radicale, cette obéissance radicale qui en fait un homme libre, fécond. La nécessité de cette radicalité-là, dans cette vie, selon les conseils évangéliques, que nous avons tous à vivre, tous, d'une manière appropriée, personnalisée, adaptée, mais tous, c'est notre objectif, à vivre d'une manière radicale, pour tous. Parce que c'est la radicalité qui va faire voir cette nouveauté incroyable, qui va faire toucher du doigt que le royaume est là, qui va montrer que c'est possible de vivre selon l'Esprit du Seigneur. Que l'Esprit n'a pas le bras, que Dieu, le Seigneur n'a pas le bras raccourci, il a la même puissance, et il va montrer aux gens par nous qu'en fait, la nouveauté du royaume, elle est visible, elle est touchable, elle est expérimentable. Alors pour vivre cette radicalité-là, il faut une vie spirituelle intense. Et vous voyez qu'un séminaire ne peut pas se contenter de la prière des heures, de la célébration eucharistique, même si c'est central. Elle empêche quand il n'y a que cette proposition-là, parce qu'il faut faire des contemplatifs. Nécessaires pour l'évangélisation. Contempler le mystère de Dieu pour pouvoir le faire voir. Il faut lire Saint Jean, le lien de Jésus à son Père. Comment Jésus vit de ce lien avec son Père. Comment Jésus a besoin, dans son humanité même, de se retirer pour être seul, à seul. Que le prêtre soit l'homme seul, oui, comme tout baptisé d'ailleurs, comme le mari par rapport à sa femme. Il faut qu'il ait un lieu seul, seul avec Dieu, pour être en communion avec sa femme. S'identifier avec Jésus, qui est tout tourné vers le Père, constamment tourné vers son Père. Donc faire des contemplatifs qui vont pouvoir vivre les conseils évangéliques, alors montrer la beauté du royaume. Radicalité dans ce domaine. Un autre point, c'est l'articulation sacerdoce ministériel, sacerdoce commun des baptisés. Capital, pour que le pasteur, le séminariste, ne devienne pas un petit chef, un petit clerc qui domine, qui a sa cour, qui a ces gens à qui il fait faire des choses et qui s'établit dans son ego, dans sa volonté de puissance. Sacerdoce ministériel, c'est-à-dire au service de la grâce baptismale. Et voyez que la méthode des cellules dont je vous ai parlé tout à l'heure, combien elle valorise. À la fois le pasteur est reconnu comme le pasteur, et en même temps, il y a une délégation de sa responsabilité pastorale avec tous ces leaders qui peuvent être responsables de 10 personnes, 20 personnes, 40 personnes, sans personne. Toujours en communion. Articulation des deux. Et pour finir, initiation à une vision de l'Église en croissance. Croissance théologale de la communauté chrétienne. Laissez-moi vous lire 1 Thessaloniciens 1, 2. « À tout moment, nous rendons grâce à Dieu pour vous tous et nous ne cessons de vous rappeler à son attention dans nos prières. Car nous n'oublions pas les travaux de votre foi, ni votre charité infatigable, ni votre espérance qui persévère dans l'attente de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1 toujours, verset 3, « Frères, nous devons rendre grâce à Dieu pour vous à tout moment, rien de plus juste, car votre foi va grandissant. Et chacun d'entre vous est plus généreux dans l'amour mutuel, croissance de la vie théologale. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu quand nous parlons de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes ces épreuves et persécutions que vous supportez. » Vision d'une église en croissance. Croissance de la vie théologale de la communauté donc, qu'on a en charge. Qui va demander donc une formation centrée sur cette vie théologale. Première mission du pasteur qui est de faire croître la vie théologale de sa communauté. Et croissance numérique, mes amis. Parce que si vous écoutez, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous avez 25 refrains de croissance dans les Actes. 25. C'est pas rien, ça veut bien dire que c'est fondamental. La parole qui se multiplie. Et au début, Luc nomme le nombre de ceux qui rejoignent. 3000, 5000, etc. Et puis il s'arrête de nommer, il y en a trop. Une croissance en nombre que nous devons viser et qui doit être fondée sur la croissance théologale, sinon, alors, c'est la volonté de puissance, précisément.